Merci à toute l'équipe Louange qui nous a parfaitement introduit pour ce message. Pas tant que je vais rebondir sur l'invitation de Nat de parler sur les relations, mais plutôt que ce matin, on va peut-être essayer de couper cette séparation qu'on fait souvent entre la première partie du culte et la deuxième partie du culte, entre l'apéritif et le plat de résistance, entre le moment où on chante et on est actif et le moment où on est assis et on reçoit des enseignements sur Dieu. J'espère que vous ne séparez pas trop ces deux moments, en fait, habituellement dans le culte. Louange et prédication sont en fait les mêmes, les deux faces d'une même pièce. À ce propos, écoutez ce que John Piper, un pasteur reconnu pour sa ferveur dans la prédication, dit. L'adoration par la prédication est l'un des grands moyens prévus par Dieu pour accomplir son but ultime dans le monde. L'objectif principal de la prédication est d'amener le peuple de Dieu dans une adoration fervente qui serait aussi personnelle que le désir le plus profond du cœur, aussi étendue que l'univers, aussi infinie que l'éternité et aussi visible que l'éclat de l'amour ou de sa création. Alors, si vous voyez la prédication uniquement comme un moment où vous allez apprendre quelque chose sur Dieu, vous visez beaucoup trop bas, d'après ce que John Piper nous dit ce matin. Et pour le passage qu'on va lire ensemble dans quelques instants, il n'y aura pas trop à se forcer pour faire le lien entre la prédication et l'adoration. Nous continuons notre série dans le livre d'Ésaïe, ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui ont se sont lancés le défi de cette lecture qu'on veut vivre ensemble en Église, vous êtes normalement arrivés au chapitre 6, ou sinon vous avez tout le week-end pour rattraper et arriver au chapitre 6. Mais nous, on va faire un petit bond en avant ce matin, on va aller au chapitre 12. Un chapitre étonnant, car au milieu des textes un peu pesants parfois que l'on lit dans le livre d'Ésaïe, sur des avertissements, sur des jugements, sur des appels à revenir à Dieu, on a là un texte comme un chant qui se serait échappé du livre des psaumes, en plein milieu du livre d'Ésaïe. Un chapitre pourtant central parce qu'il nous permet de prendre de la hauteur sur ces 12 premiers chapitres et nous aider aussi à comprendre là où veut en venir Ésaïe. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles et à lire au chapitre 12, la lecture de ce matin. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez les œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jusque-là, la lecture ce matin. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce texte de louange qui me fait du bien, j'espère nous fait du bien et nous encourage dans ce mouvement de notre être à te mettre là, au milieu de nous, au-dessus de nous. Seigneur, je te prie que ce moment passé ensemble à méditer ta parole nous renouvelle ce matin et renouvelle en particulier notre adoration. Seigneur, que nous puissions vivre ce temps comme une louange à ta gloire. En ton nom, Seigneur. Amen. Fabuleux texte de louange qui vient donc clôturer les 12 premiers chapitres qui sont un peu comme une première section dans le livre d'Ésaïe. À partir du chapitre 13, vous le verrez, on passe à quelque chose d'autre. Ésaïe commence à prononcer des oracles, non plus sur le peuple de Dieu, mais sur les peuples voisins, Babylone, l'Égypte, la Syrie. Et on passe sur un autre élan de cette prophétie. Fabuleux texte de louange parce qu'il apparaît un peu comme un ovni. Tant la situation qui nous est décrite jusque-là est désespérante et n'incite pas à la louange. Fabuleux texte qui nous fait réfléchir, j'espère, sur notre propre louange. Qu'est-ce qu'une louange en l'honneur de Dieu? Et à chaque fois, vous l'avez peut-être entendu à la lecture, Ésaïe souligne les raisons pour lesquelles nous devrions louer Dieu. Il utilise un petit mot bien connu, mais dont on ne fait pas toujours attention quand on lit dans la Bible. Car, car, car. Il y en a quatre dans ce passage. Et ce sont eux qui nous serviront de marqueur pour méditer ce texte. J'ai intitulé « Les quatre quarts d'une louange à la gloire de Dieu ». Un dessert pour nous. Les quatre quarts d'une louange à la gloire de Dieu. Premier quart, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Pour bien comprendre la profondeur de la louange exprimée ici, il nous faut un petit peu remettre ce texte dans son contexte. Déjà, repérons bien que ce n'est pas la louange d'Ésaïe lui-même qui nous est donnée ici. Hein. C'est la louange que Ésaïe met dans la bouche du peuple le jour où Dieu aura fait quelque chose en faveur de son peuple. Quelque chose qui va changer sa louange pour toujours. On louait déjà l'Éternel avant, mais en ce jour-là, et c'est par là que commence Ésaïe, ceux qui comptent sur l'Éternel le loueront d'une manière nouvelle. Pas forcément avec des paroles nouvelles, c'est sans doute les mêmes paroles qui seront utilisées, mais avec une raison nouvelle, une expérience nouvelle. Un peu comme quand Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, et désormais mon œil t'a vu. » Et voilà donc la première raison pour cette nouvelle louange qu'Ésaïe met dans la bouche du peuple de Dieu. Tu étais irrité contre moi, mais tu as détourné ta colère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les 10 premiers chapitres donnent une liste impressionnante des raisons pour lesquelles Dieu est en colère contre son peuple. Si vous avez besoin un peu de rafraîchissement de mémoire, voici un rappel de ce que nous avons donc lu cette semaine. Tout d'abord, une parole du prophète qui commence son livre sans ménagement. « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. » Ce n'est pas les Philistins, ce n'est pas les Assyriens, c'est le peuple de Dieu dont il est question ici. Même les pratiques religieuses de son peuple, désormais, nourrissent sa colère. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Car l'injustice, la corruption, l'oppression, l'orgueil règnent de toutes parts parmi le peuple. Malheur à ceux qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Que d'éléments à charge. Que de grabuge entre Dieu et son peuple. Et on ne s'attend pas à tomber au chapitre 12 sur ce texte de louange. Mais on s'y est un petit peu encouragé cette semaine et peut-être vous l'avez perçu dans vos lectures. Au milieu de ce sombre tableau, on a vu aussi s'ouvrir des fenêtres d'espérance ici et là. L'heure est noire, mais Ésaïe l'a dit à plusieurs reprises, il n'en sera pas toujours ainsi. Et le chapitre 11, que nous lirons cette semaine, celui qui précède donc notre passage, va amener cet élan d'espérance à son paroxysme. Écoutez quelques-uns des versets qui nous sont donné ici, au chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. C'est la venue du Messie, le règne du Messie qui nous sont annoncés là. Table rase de ces mauvais leaders, oppresseurs du peuple, corrompus, qui nous ont été décrits dans les chapitres précédents, place à un chef rempli de la crainte de l'Éternel, qui règne avec justice et équité. Waouh ! J'espère qu'on a envie de ça ce matin. Bien, c'est justement les raisons pour lesquelles on a ce chant de louange au chapitre 12. Il y a eu renversement. Dieu est intervenu. Et le peuple ne peut que louer Dieu. C'est pour cela que nous avons ce passage. Ce chapitre est la réponse apportée par ceux et celles qui ont reconnu que Dieu a agi en leur faveur. C'est le chant de ceux qui ont vu la colère de Dieu fondre sur eux, mais au dernier moment, se détourner. Savoir que la colère de Dieu est apaisée, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir vu la colère fondre sur nous et se détourner au dernier moment. C'est un peu comme la différence qu'il y a entre la grâce à bon marché et la grâce qui comprend l'exigence et ce que Dieu a enduré. Petite question, peut-être un peu perturbante, pour bien saisir cela. Qu'est-ce qui serait le plus marquant pour vous ? Vous faire lécher la main par un agneau ou par un lion? Si un agneau vous lèche la main, vous direz simplement « il est doux ». Mais si vous voyez un lion rugissant fondre sur vous, prêt à vous dévorer, mais au dernier moment, alors que vous pensez que vous allez être son déjeuner, se mettre à vous lécher la main, ça m'arrive des fois quand je visite les gens et qu'il y a des gros chiens, j'ai la même impression. À coup sûr, c'est ce lèchement-là qui va plus vous marquer. Parce que contrairement à l'agneau, le lion aurait pu vous dévorer et faire de vous son déjeuner. Voilà la première raison qui va inspirer, d'après Ésaïe, cette nouvelle louange à la gloire de Dieu. Seul celui qui se sait sous la menace du lion rugissant, du Dieu en colère contre toute l'injustice humaine, celle qui nous est donc décrite dans les premiers chapitres d'Ésaïe, peut réellement accepter le sacrifice de l'agneau, celui qui viendra au chapitre 53. Vous savez, cet agneau qui se laisse conduire à la boucherie sans broncher pour capter, recevoir toute la colère de Dieu et la détourner de nous pour qu'elle ne nous atteigne pas. Et l'élan de louange ne s'arrête pas là. Ésaïe souligne la conséquence pour celui qui a vécu une telle expérience. Le fait que cette colère se soit détournée finalement de nous provoque en nous une profonde consolation. C'est ce que vous avez dans le texte. J'aurais envie de dire d'ailleurs que c'est la seule consolation qui peut réellement consoler. Toute consolation qu'on peut connaître sur cette terre n'est réelle et profonde que si elle s'appuie sur cette vérité. Dieu a détourné sa colère de nous. Tout le reste n'est que fragilité et finira par ne plus être une réelle consolation. Si ce matin, cette parole n'est pas une profonde consolation pour vous, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment conscient du problème du péché dans votre vie, que vous ne voyez peut-être pas tout à fait clair sur tout ce qui vous sépare de Dieu. D'après Ésaïe, en ce jour-là, se savoir pécheur racheté, avoir vu la colère de Dieu se détourner de soi, produit la consolation dont nous avons besoin. Voilà le premier quart d'une louange à la gloire de Dieu. Deuxième quart, ce qui fait une moitié. Car l'Éternel est ma force. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel est ma force. Oh, ce serait un bon titre de cantique, ça. J'ai regardé dans le gène, il n'y en a pas. Étonnant, hein ? Il y a même un seul cantique où il est dit « L'Éternel est ma force ». Vous pouvez chercher lequel. Enfin, peut-être je me trompe, mais j'ai regardé rapidement ce matin et je suis tombé que sur un seul cantique. Au chapitre 7 d'Ésaïe, on a un anti-cantique « L'Éternel est ma force ». C'est l'histoire d'un homme qui nous montre à quel point c'est le néant. C'est épouvantable de ne pas faire confiance à Dieu. Allez, comme c'est la lecture prévue pour demain, petit teaser. Le chapitre 7 nous rapporte un épisode de la vie du roi Ahaz. Le problème du roi Ahaz, c'est que les rois de Syrie et de Samarie sont en train de fondre sur lui pour lui faire la guerre. A priori, ils veulent le forcer à entrer dans une coalition avec eux contre un autre roi d'une puissance encore plus grande, le roi d'Assyrie. Un roi avec des visées expansionnistes. Et Ahaz est angoissé. D'un côté, il craint la menace de ces deux rois, celui donc de Samarie et celui de Syrie. Mais d'un autre côté, il craint encore plus de se joindre à eux pour combattre le roi d'Assyrie, parce qu'il sait la lutte perdue d'avance. Et Ésaïe lui propose alors une solution radicale. Arrête de t'appuyer sur les coalitions politiques. Mets toute ta confiance en Dieu. Mais Ahaz refuse. Il choisit l'alliance avec la Syrie. Oh, à court terme, ça marche. Les deux rois vont rebrousser chemin et il sera tranquille pour quelques années. Mais à long terme, cela provoquera des conséquences dramatiques pour tout le peuple. La Syrie finira par se retourner contre le peuple de Juda, rasera tout sur son passage jusqu'à Jérusalem dont il fera le siège et sera seulement arrêté par une intervention miraculeuse de Dieu. On aura ça un peu plus tard dans le livre d'Ésaïe. Mais pour ce matin, l'exhortation, c'est que nous appuyer sur quoi que ce soit d'autre que sur l'Éternel finira toujours par se retourner contre nous. Ceux qui comptent sur l'Éternel décident de faire quelque chose à contre-courant du monde dans lequel ils cheminent. Comme Ahaz, nos solutions humaines sentent souvent le souffre. Il n'est pas rare qu'on soit devant, en fait, deux mauvaises solutions, la peste ou le choléra. Alors ne nous laissons pas conduire par la crainte, comme Ahaz, ce qui nous amènera forcément à des choix inconsidérés. Ésaïe nous invite à prendre position dans la louange et d'affirmer plein de confiance. Je ne craindrai pas, car l'Éternel est ma force. Attention cependant à ne pas prononcer ces paroles comme un mantra, On peut très bien dire « l'Éternel est ma force », au contraire de « Ahaz », mais en fait, de ne pas plus s'appuyer que « Ahaz » sur l'Éternel. Je peux dire « l'Éternel est ma force » le dimanche matin, mais tirer ma force tout au long de ma semaine, de mon argent, de mes compétences, de ma réputation, de mes relations, de mon réseau. La question, c'est au-delà des mots, sur quoi je m'appuie vraiment ? Ésaïe nous parle ici d'un jour où cette affirmation « l'Éternel est ma force » aura un fondement inébranlable. Je pourrai scanner, un scanner à toute épreuve, ma motivation pour savoir si l'Éternel est réellement ma force. Dieu va faire quelque chose pour cela. Ce quelque chose, vous l'avez à la fin du verset 2. C'est lui qui m'a sauvé. Une louange à la gloire de Dieu est toujours une louange en réponse au salut de Dieu. Le salut dans la Bible, ce n'est pas un programme, c'est une personne. Je ne peux connaître réellement Dieu que si je le connais comme Dieu sauveur. Une petite image bien imparfaite me vient en tête depuis quelques semaines. Elle parlera à tous ceux qui sont passés par la dure épreuve de la conduite accompagnée. Mes enfants ne sont pas là, j'en profite. Ils conduisent très bien. Mais la première fois que vous montez dans une voiture avec un jeune de 16 ans qui n'a que 20 heures en compteur et que vous vous installez de l'autre côté du volant, il y a un élément de la voiture qui prend une toute autre dimension. Quand vous êtes au volant, il paraît un équipement bien utile, mais pas forcément nécessaire. Si vous vous garez, vous passez une vitesse, vous pouvez rajouter le frein à main. La voiture ne bouge déjà plus. Mais par contre, quand vous vous asseyez de l'autre côté du volant et que vous dites « maintenant ma vie est entre ses mains », vous dites « cet équipement-là, c'est ma seule chance ». Eh bien, c'est un peu la même chose. Dieu n'est pas notre équipement. Mais tant que je ne vois pas Dieu comme ma seule chance, je ne vois pas réellement Dieu. Notons d'ailleurs qu'à chaque fois que le peuple de Dieu a expérimenté le Dieu sauveur tout au long de la Bible, cela a aussitôt suscité un renouvellement de sa louange. On peut penser à la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, où Moïse entonne un cantique avec des paroles très similaires à celles de ce matin. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » On peut penser aussi au dernier livre de la Bible, à ce cantique que chante le peuple que Dieu a gardé de la tribulation. Un cantique nouveau que seuls les rachetés peuvent apprendre, c'est dans l'Apocalypse. Alors on ne connaît pas exactement les paroles de ce cantique, mais il y a fort à parier qu'elle ressemble un peu à celle de notre cantique de ce matin. Frères et sœurs, ce n'est pas la qualité musicale de notre louange, la beauté des rimes, des auteurs de nos cantiques qui va faire une louange à la gloire de Dieu. Oh, c'est un support utile, mais la raison profonde, c'est de nous voir comme sauvés par Dieu, comme le voir comme notre seule chance. Ce qui peut transformer des chants chantés par des voix humaines, accompagnés par des instruments joués par main d'homme, c'est quand des cœurs se reconnaissent rachetés, sauvés, miraculés. Des cœurs d'hommes et de femmes qui saisissent que Dieu est leur seule chance. Et l'élan de louange se poursuit donc. Il nous conduit jusqu'au verset 5 où nous trouvons notre troisième quart de louange à la gloire de Dieu. Car l'Éternel a fait des choses magnifiques. Mais avant cela, il nous faut repérer ce qui s'est passé entre le verset 2 et le verset 3. On est passé d'une expérience personnelle. Ta colère s'est détournée de moi. Tu es celui qui m'a sauvé. À une expérience collective. vous puiserez avec joie aux sources du salut. Le salut est un chemin personnel et collectif. On est à la frontière entre ce qu'on voit souvent comme le monde d'avant, vous savez, celui qui veut tous nous faire rentrer dans un groupe, dans une case, pas une tête qui dépasse, et le monde moderne. Chacun sa route, chacun son chemin. On peut tous choisir ce qui est bon pour nous. Le salut en Jésus-Christ, c'est ni l'un ni l'autre. Ou les deux à la fois, comme vous préférez. Magnifiquement exprimé dans ce « vous puiserez avec joie aux sources du salut ». C'est l'Église qui nous est suggérée ici. L'Église n'est pas une institution, une organisation à bien structurer, une structure à bien organiser. C'est un élan d'enthousiasme, un écho qu'on se donne les uns aux autres. Allons ensemble puiser aux sources du salut. Ensemble, on est appelé à se réjouir de ce qui fait la spécificité de notre propre salut. Dieu ne s'est pas adressé à moi comme à vous. Mais ensemble, nous sommes appelés à nous réjouir du Dieu unique qui apporte la même solution d'amour et de justice dans la vie de celui qui se reconnaît son débiteur. Voilà ce qui, en ce jour, nourrira la louange du peuple de Dieu. Une louange en réponse à notre expérience personnelle. Dieu a détourné sa colère de moi, mais en même temps une louange transcendée par cet élan collectif. D'autres ont vécu la même expérience que moi. Le Dieu que je loue, c'est pas un Dieu de mon imagination, c'est le Dieu qui agit dans la vie de mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Église pour vivre une louange à la gloire de Dieu. Mais l'image nous pousse encore un peu plus loin. Si la foi est individuelle, elle n'est pas une affaire privée. L'idée d'une foi privée ne colle pas du tout avec ces élans de louange qu'on trouve dans la Bible. Le peuple de Dieu racheté, conscient que la colère de son Dieu a été détournée, persuadé que Dieu est sa seule chance, annonce, rappelle, célèbre d'autant plus l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Contrairement à ce que pensent nos sociétés, la seule nouvelle qui aurait besoin d'être rappelée tous les jours, c'est celle-là. On aurait besoin d'une chaîne d'information continue pour nous parler de ça, plutôt que de nous parler des mauvaises nouvelles qui, à longueur de journée, ravagent notre monde. Alors, on n'est pas habitué à associer louange et annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle. On a souvent l'impression que la louange, c'est quelque chose qui doit me ressourcer, quelque chose qui va m'amener, moi, à vivre les choses autrement, qui me fait du bien. Mais ici, c'est l'idée que Dieu est loué quand ses œuvres sont publiées à toute la terre, à tous les hommes. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience d'un élan de louange dans votre cœur parce que justement, vous avez eu l'occasion de parler de ce que Dieu a fait dans votre vie à quelqu'un qui ne le connaît pas encore. Et c'est de cela dont il est question ici. Alors, la prochaine fois que vous aimeriez passer un temps dans la louange avec Dieu, une manière de la renouveler, plutôt que de mettre un CD de Sébastien Denray dans la chaîne, j'ai rien contre, c'est une très bonne chose, peut-être vous pouvez aller parler de Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas encore. C'est la louange dont il est question ici. C'est un élan de louange qui nous amène justement à nous décentrer de nous, comme si la louange devait remplir notre réservoir, pour la voir comme cette louange qui honore le seul Dieu qui fait des choses magnifiques, dont toute la terre devrait être remplie de sa gloire. Enfin, dernier quart pour une louange tout entière à la gloire de Dieu, car il est grand au milieu de toi. Si Dieu se détourne de sa colère, s'il nous sauve, s'il nous utilise comme canal de sa grâce, c'est parce qu'il veut vivre au milieu de nous. C'est le grand projet qui traverse toute la Bible. Le grand projet de départ, en Éden, vivre en communion parfaite avec l'homme et la femme. Le grand projet qui perdure, même après la chute. Dieu multiplie les initiatives pour vivre avec son peuple. C'est la colonne de fumée qui accompagne le peuple de Dieu dans le désert. C'est le tabernacle qui manifeste la présence de Dieu au milieu du peuple qui erre de lieu en lieu. C'est le temple où le peuple est invité à venir prier le Dieu unique. Mais à chaque fois, cette présence de Dieu parmi son peuple, depuis la chute, est comme empêchée. Elle est comme contrainte. On peut penser aux nombreux sacrifices qu'il faut apporter dans le temple pour s'adresser à Dieu. Elle est parfois même dangereuse. On peut penser à tous ces moments de désobéissance du peuple qui ont provoqué des centaines, des milliers de morts parmi le peuple. Pourquoi ? Parce que la sainte présence de Dieu ne peut pas se satisfaire du problème du péché dans le cœur de l'homme. Le désir de Dieu d'être au milieu de son peuple s'exprimera ultimement par son Fils Emmanuel. Dieu avec nous. Une autre annonce du chapitre de demain d'Ésaïe au chapitre 7. Mais vous connaissez la suite. Le Dieu venu parmi nous vient vivre la vie que nous aurions dû vivre pour subir la mort que nous aurions dû subir. Clap de fin. Est-ce que la mort du Dieu venu parmi nous signifie la fin du projet du Dieu au milieu de nous ? Dieu soit loué. Et c'est tout l'élan de louange de notre texte. C'est tout le contraire. Son sacrifice volontaire signifie désormais que le problème du péché est réglé et qu'il n'y a plus aucune raison pour que Dieu ne fasse pas sa vie parmi nous, mais aussi en chacun de nous, par son Esprit Saint. La boucle est bouclée. Le Messie du chapitre 11 est venu et son règne a commencé. Il a commencé dans le cœur de ceux qui comptent sur lui. Un règne de justice, un règne d'équité. Est-ce qu'il peut y avoir plus haut motif de louange en l'honneur de notre Dieu ? Voilà pourquoi Ésaïe peut dire qu'en ce jour, nos cris seront des cris d'allégresse. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. En ce jour-là, ceux qui comptent sur l'Éternel diront « Je te loue, Éternel, car ta colère s'est détournée de moi, car tu m'as sauvé, car tu as fait de moi un canal de ta grâce, car désormais tu vis au milieu de nous, en chacun de nous. » Ce jour qu'Ésaïe annonce, il a commencé depuis la croix. Nous sommes ce peuple qu'Ésaïe avait en perspective, qui lui donnait de l'espoir, lui qui vivait un peuple si décevant, si à côté de la plaque, dans son temps présent. Alors mes frères et sœurs, ne laissons pas des choses secondaires dénaturer notre louange. Les questions techniques, les questions artistiques, les goûts musicaux, c'est pas que c'est sans importance, c'est pas qu'on ne doit pas ajuster ensemble les choses par amour les uns pour les autres. Mais la seule louange qui honore Dieu, c'est celle qui adore Dieu en esprit et en vérité. Comme Ésaïe nous l'annonce dans ce fantastique chapitre. Car il est l'Éternel, tout simplement. Ou plutôt, car il est l'Éternel, infiniment.